Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin la procureure générale près la cour d'appel de Paris, Catherine Champrenaud.
Bonjour Madame Catherine Champrenaud, bienvenue Bonjour. Sur RTL, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le disais, à l'un des postes les plus prestigieux de la magistrature de notre pays depuis 2015. Vous réclamez des peines au nom des Français. Votre voix compte donc dans ces moments où votre profession est sous le feu des critiques. Mais avant d'y venir, l'actualité du jour, c'est bien sûr l'agression dont a été victime le président hier. Est-ce que c'est révélateur pour vous d'une société de plus en plus violente qui n'a plus peur de ses autorités et notamment de sa justice ?
Certainement, puisque on s'attaque à la personne du président de la République par un geste extrêmement agressif et extrêmement humiliant en même temps. Et c'est vrai que symboliquement, porter la main sur le chef de l'État, élu démocratiquement, c'est, je dirais, une rupture dans le respect de l'autorité, oui.
Alors, dans l'absolu, les auteurs présumés risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, mais sans antécédent, eh bien, ce qu'on se dit ce matin, c'est qu'il risque de sortir avec une petite peine. Ça serait la loi, mais est-ce que ce serait compréhensible ?
Alors, quand on juge, bien sûr, on appréhende à la fois la gravité des faits et puis la personnalité de l'auteur. S'il a des antécédents, effectivement, il risque une peine plus importante que si c'est un primo-délinquant. Oui. Mais c'est vrai que le geste est symboliquement inadmissible, très, très, très fort, très agressif, même si le président de la République a voulu le banaliser tout en le dénonçant d'ailleurs. Mais la justice pénale donne toujours, si vous voulez, une première chance, c'est-à-dire que la première sanction est souvent une peine d'avertissement. Et comme vous le savez, la peine d'emprisonnement doit rester, au terme de la loi, exceptionnelle.
Peine d'avertissement, dites-vous, mais justement, ceux qui nous écoutent, pour eux, c'est aussi révélateur de ces incivilités du quotidien, de ces violences aux personnes qui, vous le savez, augmentent et gâchent la vie des Français au quotidien. Et ça reste parfois sans sanction symbolique. Est-ce que vous comprenez ce ressenti ? Est-ce qui nourrit la défiance vis-à-vis de la justice ?
Alors écoutez, vous savez, nous avons un baromètre dans la justice pénale qui s'appelle le taux de réponse pénale. Notre taux de réponse pénale, c'est-à-dire par rapport aux affaires poursuivables, c'est-à-dire avec des auteurs identifiés et des preuves suffisamment fortes pour poursuivre un individu, on donne des réponses. Et donc on a en France un taux de réponse de 90%. Donc il est faux de dire que les individus ne sont pas sanctionnés. Simplement, ils ne sont pas forcément poursuivis. Il y a ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites, qui peuvent être des stages de sensibilisation, qui peuvent être du travail d'intérêt général, qui peuvent être une peine d'amende. Et donc, ce sont les alternatives aux poursuites. Et selon les juridictions, ça peut aller jusqu'à 40 ou 50% de l'ensemble des affaires. Et les affaires poursuivies sont les affaires qui sont relatives soit à des faits très graves, soit à des faits qui sont commis par des multirécidivistes. Mais nul doute que dans cette affaire, il me semble qu'il y aura des poursuites. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y aura forcément une peine d'emprisonnement ferme, mais il y aura un avertissement suffisamment sévère.
Oui, mais vous parlez avertissement, et c'est justement ma question suivante, c'est que dans ces cas-là, on se dit la justice est trop molle, trop laxiste, c'est le procès qui lui est fait aujourd'hui. Et vous vous dites, Catherine Champrenaud, je vous ai lu hier dans Le Monde, et je suis tombé de ma chaise, ou presque, la faute au ministre de la Justice, si notre justice est trop laxiste, parce qu'elle nous demande de limiter au maximum l'incarcération. C'est tout le contraire du message qu'on a au quotidien.
Alors, la loi qui a été votée le 23 mars 2019, entrée en application le 24 mars 2020, est une loi, effectivement, qui recommande, qui préconise des alternatives à l'emprisonnement, puisque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, la peine doit être obligatoirement, c'est le terme de la loi, aménagé. Donc, ce n'est pas le ministre de la Justice qui le dit, c'est la loi. Et donc, effectivement, on nous préconise d'éviter les courtes peines d'emprisonnement. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que les prisons sont surpeuplées et que, effectivement, on considère que nous n'avons pas les conditions forcément idéales pour pratiquer la réinsertion à l'intérieur des murs. Ça, c'est une donnée, et on peut dire en cela que la France ne s'est pas dotée d'un parc pénitentiaire suffisant. Et la deuxième raison, c'est que les courtes peines ne permettent pas un travail en profondeur avec le détenu pour effectivement régler un certain nombre de ces problèmes.
On ne met pas en prison parce qu'on n'a pas suffisamment de places de prison.
Notamment.
Et vous qui êtes dans la magistrature depuis des années, vous ne dites pas quand même que c'est hallucinant, surprenant, parce que du coup, on vous impose des quotas de mandats de dépôt par semaine, c'est ce que vous dites. Donc ça vous empêche de faire votre travail correctement.
Ça fait des années, voire des décennies. Vous savez, je suis en fin de carrière, j'ai 40 ans de carrière.
Vous allez partir.
Et c'est vrai que ça fait des années que les professionnels et les pénalistes disent que nous sommes insuffisamment dotés de places d'emprisonnement pour avoir les véritables moyens de notre politique répressive. Alors, bien entendu, je veux rassurer vos auditeurs, il n'est pas question de remettre en liberté ni des gens dangereux, ni ceux qui font de la délinquance un mode de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les multirécidivistes. Ceux-là iront forcément en prison. Simplement, effectivement, dans des cas, je dirais, moins graves, avec des individus qui sont primo-délinquants ou dont on pense qu'une mesure alternative peut avoir son effet bénéfique, c'est-à-dire dissuasif, éducatif, et peut prévenir la récidive, on choisit cette voie.
Alors, il y a la question des féminicides. Vous savez qu'il y a des procureurs, donc vos collègues qui ont demandé avant-hier dans une tribune des moyens supplémentaires, parce que c'est votre cheval de bataille, les moyens supplémentaires, pour lutter contre les violences conjugales, avec par exemple un assistant spécialisé ou un juriste assistant qui serait dédié à ce qui est une grande cause nationale. C'est une grande cause nationale. Est-ce que vous nous dites là aussi, c'est que vous n'en avez pas les moyens?
Alors, si vous voulez, le fait d'avoir des moyens suffisants ne nous empêche pas d'agir. Et notamment...
Oui, mais vous agiriez mieux. Et depuis des années...
Bien sûr, on agirait mieux.
On ne vous facilite pas la tâche, c'est ça que vous dites.
Un des problèmes de la lutte contre les violences conjugales, c'est que souvent, les uns et les autres, police et justice, peuvent donner l'impression, et il y a de temps en temps une réalité, de travailler en silo. Effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir très largement communiquer. Mais je rappelle... que après le Grenelle des violences conjugales, alors que au sein de la Cour d'appel de Paris nous faisions déjà beaucoup de choses, nous avons identifié ce qu'on peut appeler les angles morts de la lutte contre les violences conjugales et nous avons porté un certain nombre d'actions. Et notamment une action que j'ai portée moi à la Cour d'appel de Paris pour l'ensemble de la région, c'est de pouvoir désigner des experts qui auront le temps de faire une expertise approfondie sur la dangerosité criminologique de l'auteur d'une violence conjugale.
Et finalement, quand on vous entend, on se dit même combat des magistrats et des policiers, c'est-à-dire davantage de moyens, davantage de réponses pénales. Et pourtant, eux aussi, les policiers, vous reprochent votre laxisme. On l'a vu dans cette manifestation qui a beaucoup marqué les esprits devant l'Assemblée nationale.
Alors, d'abord, je voudrais vous dire que nous avons des liens constructifs et confiants avec la police. On travaille avec eux au quotidien et je crois que les policiers le savent, il n'y a pas de défiance réciproque.
Vous n'y croyez pas. Donc, ce qu'on entend, n'est pas unanime.
Je dirais que dans le travail de police judiciaire, il y a une compréhension mutuelle des contraintes de chacun. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que la police peut avoir le sentiment que nous n'incarcérons pas suffisamment des individus qui peuvent apparaître soit dangereux, soit sur une pente de récidive.
Et vous êtes d'accord avec eux là-dessus, si je comprends bien ?
En partie, il y a une certaine réalité, puisque je vous le dis, nos moyens de jugement, déjà, sont limités. C'est pour ça que j'ai pu dire, effectivement, qu'on ne pouvait pas faire autant de comparutions immédiates que l'on souhaitait. Et nous avons aussi... Vous savez, la surpopulation carcérale... Ouais. c'est aussi quand même une préoccupation
bien
pour
sûr.
Nous, parce que ce que nous voulons, c'est que la peine soit utile.
Oui.
Ce que nous voulons, c'est que la période d'incarcération soit une occasion, effectivement, de changement, de réinsertion, d'apprendre un métier, que l'individu se révèle dans ses compétences.
Et lutter contre la radicalisation islamiste aussi, par
bien
exemple.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que ça, vous n'en avez pas forcément les moyens non plus, c'est ce que vous dites. Et ça, ça m'a surpris. Parce que vous n'avez pas, vous avez demandé un binôme psychiatre-psychologue pour mener des expertises approfondies. Ça fait 4 ans que vous menez ce combat, vous ne l'avez pas gagné.
Je suis prêt de le gagner, je pense, parce que nous venons d'avoir un message de la chancellerie qui va dans ce sens. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait en matière de radicalisation, et je l'ai dit notamment dans Le Monde, c'est que l'administration pénitentiaire s'est dotée quand même de moyens. Il y a le renseignement pénitentiaire, et il y a aussi les quartiers d'évaluation de la radicalisation qui permettent de détecter les profils les plus dangereux pour les orienter dans la détention à l'isolement.
Plus de places de prison, ça veut dire combien, à votre avis, très rapidement, il en faut combien de plus en France aujourd'hui ?
15 000.
15 000 places. Bon, bah écoutez, le message est passé. Merci Catherine Champrenault. Bonne retraite à vous puisque vous allez partir bientôt à la retraite après des années au service de la magistrature. Très bonne journée à vous.
Merci.
Bonne journée à nos auditeurs.
Merci Madame Champrenault. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Il nous manque donc 15 000 places.